Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, dit Jésus. Celui qui croit que le Christ est le pain vivant descendu du ciel, qui mange de ce pain, vivra éternellement. Crois-tu cela? Le crois-tu? C'est ce que Jésus demandera à Marthe, la sœur de Lazare. Il lui dira, je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Et elle répondra, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Que faut-il pour croire en Dieu? Quelle serait, s'il n'y en avait qu'une à garder, quelle serait la qualité fondamentale du croyant, cette qualité indispensable pour croire, qui serait même d'une certaine façon la variable d'explication, de compréhension des différences d'une personne à une autre. Variable d'explication de la pratique religieuse d'une personne à une autre, mais même au sein de notre vie, d'un moment de notre vie à un autre, d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre. J'ai longtemps considéré que nous, catholiques de France, étions champions du monde. Champions du monde pour être passés en un siècle de 70% de la pratique religieuse à 3%. Champion du monde. Difficile de faire mieux comme rétrécissement. Et puis, j'ai découvert que c'est arrivé aux paysans. Les paysans de France constituaient 70% de la population française en 1900 et 3% en 2000. Ça ne veut pas dire qu'il faut être paysan pour être pratiquant. Peut-être avoir le sens de la terre, le sens du travail, avoir même la vocation de nourrir les autres. Que faut-il pour croire en Dieu? Un minimum d'humilité. Nous reconnaître issus de la terre, attachés, viscéralement attachés à ce qui est terrestre, matériel, charnel, malgré un désir profond d'aller au ciel, d'être enlevé dans les hauteurs, d'être délivré justement de toute pesanteur. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Le choix de Dieu de nous donner le pain de vie veut réconcilier ces deux réalités terrestres et spirituelles. Ces deux réalités terrestres et spirituelles qui nous composent. Nous sommes autant de la terre que du ciel. Et il nous faut un minimum d'humilité pour le reconnaître. Un minimum d'humilité et un minimum d'intelligence. Un minimum d'intelligence pour la question spirituelle, pour ne pas confondre en particulier irrationnel et surnaturel. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Rien n'est impossible à Dieu. À 3 jours de la fête de l'Assomption, de l'entrée de l'humble servante dans la gloire du ciel, je vous propose que nous lui demandions son aide. Elle sait mieux que personne que rien n'est impossible à Dieu. Et demandons-lui pourquoi nous devons, plus encore que faire preuve d'humilité, pourquoi nous devons accepter de nous humilier devant Dieu? Oui, nous humilier devant Dieu. C'est une expression qui se retrouve à 2 reprises au moins dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Saint Jacques. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Et dans la première lettre de Saint Pierre, abaissez-vous sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Parce que dans les deux cas, il ne s'agit pas de s'humilier pour le plaisir, mais pour que le Seigneur nous élève, pour que le Seigneur nous élève aux deux sens du mot élevé, éducation et glorification. Ce que dit le Christ, qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. J'ai tendance à penser que c'est un des objectifs de l'éducation, l'apprentissage de l'humilité. C'est même peut-être le critère de ce qu'on appelle la bonne éducation, ce minimum d'humilité. Ayez assez d'humilité, dit saint Paul, pour considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Supérieurs à vous-même. Il explique que chacun ne soit pas préoccupé par ses seuls intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. C'est ça, la bonne éducation. Sachez les laisser passer devant, avant. Saint-Pierre, marqué évidemment par le lavement des pieds, utilise une très belle expression. Il parle de l'humilité comme tenue de service. Je vous exhorte, mes frères, à prendre les uns envers les autres l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Pourquoi faut-il s'humilier devant Dieu? Et j'insiste à dessein et à nouveau, devant Dieu, pour que nous ne soyons pas comme l'épouse, la première épouse du roi David, Michal, quand elle l'a vu danser et tournoyer devant l'arche du Seigneur qui venait à Jérusalem. Elle l'a méprisé dans son cœur. Tant de nos contemporains, tant de nos proches, qui nous regardent avec condescendance, mépris. Comme il s'est honoré aujourd'hui, ce qu'elle dit, le roi d'Israël. Et David répondit, non, devant le Seigneur, devant le Seigneur. Oui, je danserai devant le Seigneur, je m'abaisserai, je m'humilierai. Pourquoi faut-il s'humilier devant Dieu? Le seul fait de poser la question montre à quel point nous avons perdu le sens de Dieu. Il faut que nous ayons vraiment perdu le sens de la grandeur de Dieu pour simplement imaginer cette question. C'est dans le livre de Job ce que, à la fin, Dieu finit par répondre à Job et à ses amis. « Qu'est-ce que vous savez de moi ?» Mieux encore, il dit, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Parle, parle, puisque tu sais tout. Mieux encore, ce qui revient sans cesse chez les prophètes, qui est mon égal? Qui est comme Dieu? C'est le nom littéral de l'archange Saint-Michel, le chef du combat spirituel, c'est-à-dire du combat contre l'orgueil, contre notre ego et contre l'orgueil de ce monde, le prince de ce monde, le grand orgueilleux. Ils sont trois en réalité, Michel, qui est comme Dieu, Gabriel, force de Dieu, et Raphaël, Dieu guéri, guérison de Dieu, de la part de Dieu, parce qu'il faut tenir les trois ensemble, les trois vont ensemble. L'incomparable grandeur de Dieu, la force du bien et la guérison des pécheurs. Voilà pourquoi nous appelons le pain du ciel le pain des anges, en réalité des saints archanges. Humiliez-vous devant Dieu pour avoir la force et la guérison. Mais ça veut dire que nous ayons besoin de cette force et envie de cette guérison. Lorsque, au début de la messe, nous confessons que nous avons péché en pensée, c'est pas les petites pensées malveillantes, impures, les petites pensées mauvaises sur le plan de la morale. Pécher en pensée, c'est perdre le sens de la grandeur de Dieu. Et notre communion, pas seulement eucharistique, pas seulement sacramentelle entre nous, suppose les trois conditions. La conscience de Dieu, le besoin d'aide et ce désir profond de sanctification. Vierge Marie, donne-nous de reprendre ton cantique d'action de grâce, de pouvoir chanter avec toi les merveilles que le Seigneur a faites pour nous. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il disperse les superbes, il renverse les puissants. Il nous nourrit du pain du ciel pour que nous ayons la vie éternelle.